Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand face-à-face en direct jusqu'à 13h comme tous les samedis avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant et comme chaque semaine, retour sur les temps forts des derniers jours avec le duel et puis le débat du samedi. Le journalisme en question. Être journaliste, est-ce seulement raconter le monde ou est-ce aussi une manière de l'influencer, de peser sur le cours des choses? Le journalisme est-il toujours un quatrième pouvoir? Est-il d'ailleurs un contre-pouvoir? Autant de questions que l'on se pose à la lecture du premier tome foisonnant des mémoires que publie l'un des grands noms du journalisme français, Jean-François Kahn. Il publie « Mémoires d'outre-vie » aux éditions de l'Observatoire. 650 pages d'un parcours exceptionnel, celui d'un homme né sous la Troisième République qui aura connu 10 présidents, vécu en France et à l'étranger la plupart des grands événements qui ont bouleversé le monde ces dernières décennies. La vie d'un créateur de presse aussi qui a croisé le président Nasser, Albert Camus, De Gaulle ou François Mitterrand. Rencontre avec Jean-François Kahn d'ici une vingtaine de minutes. Mais d'abord le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. On va commencer directement par ce qui a marqué la semaine. C'était un moment fort, tendu. C'était mercredi à Paris.
Vous nous aidez, monsieur le ministre. Vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Je sais.
C'est dur.
Vous pouvez compter sur moi.
On part au boulot et on ne sait pas comment on va rentrer, dans quel état ou si on ne va pas finir à l'hôpital.
Tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte.
Merci, premier.
Bon courage.
Merci.
Vous avez évidemment reconnu la voix du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin venu à la rencontre des forces de l'ordre qui manifestaient devant l'Assemblée nationale ce mercredi avec un dialogue engagé par le ministre avec plusieurs fonctionnaires et plusieurs représentants de syndicats policiers. Cette phrase qui restera tous les matins quand je me lève et tous les soirs quand je me couche. Je pense à vous, a répondu le ministre à l'une des interpellations. C'est une première de mémoire de policier pour un ministre de l'Intérieur. Gilles, qu'est-ce que vous retenez de ce moment-là ?
Je crois qu'il faut distinguer la manifestation policière et la présence politique. Enfin, en tout cas, il faut réfléchir aux deux. Sur la manifestation policière qui a son origine dans un malaise dont on a parlé depuis de nombreux mois ici et plus récemment sur la mort de deux policiers dans l'exercice de leurs fonctions, j'ai eu un certain sentiment de malaise. C'était moins une manifestation qu'un meeting. Il y a eu des mots d'ordre qui étaient embarrassants. Il y avait un climat. Il y avait des images d'Éric Zemmour, de Philippe de Villiers, de Marine Le Pen paradant. Bon. Mais surtout.
Aux côtés de Jean Lassalle, d'Yves Jadot et de.
J'y reviendrai. C'est ce que je disais. C'est la présence politique. Mais le plus grand malaise sur la manifestation elle-même, ça a été pour moi la réactivation de deux mythes. Le premier mythe a été réactivé par la police elle-même, qui est le mythe du laxisme judiciaire. Cette idée que le problème de la police, c'est la justice, c'est quelque chose auquel beaucoup de Français souscrivent, et souscrivent même majoritairement. Or, s'agissant des violences contre les policiers en particulier, mais les dépositaires de l'ordre public en général, on sait que c'est déjà une circonstance aggravante, que les peines sont le plus souvent beaucoup plus sévères, qu'il y a beaucoup moins de peines alternatives, qu'il y a beaucoup plus de comparutions immédiates, et même sur les crimes et délits en général, la France est un des pays en Europe, dans lesquelles on emprisonne de plus en plus quand c'est exactement le mouvement inverse dans les autres pays, dans lesquels il y a de plus qu'ailleurs de détention provisoire. Bref, c'est une idée qui est largement un mythe. Et le deuxième point, le deuxième malaise, le deuxième idée qui a été réactivée, c'est ce mythe du bon sens, qui a été réactivé par Gérald Darmanin lui-même dans son interview dans l'Express. Il était interrogé sur les statistiques de la délinquance. Et qu'a-t-il répondu ? J'aime beaucoup les enquêtes de victimation, mais je préfère le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on privilégie, que le ministre privilégie le ressenti de quelqu'un, nécessairement partiel, parfois partial, sur les travaux scientifiques qui sont réalisés à partir de données enregistrées par ses services eux-mêmes, par les des enquêtes de victimation auprès des Français. En d'autres termes, des travaux qui sont pilotés par l'INSEE, qui sont pilotés par les services statistiques de son propre ministère.
Enquête de victimation d'un mot, qu'est-ce
enquête
que ça veut dire?
Enquête de victimation, ça veut dire que vous interrogez les Français pour savoir s'ils ont été victimes. C'est la différence entre une plainte qui a été déposée, qui a été enregistrée dans un commissariat, et des délits que vous avez pu subir, mais qui n'ont pas donné lieu à une plainte. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui permettent d'avoir les éléments les plus objectifs sur la réalité de la délinquance. Le problème, et c'est ça où je trouve que cette réactivation du mythe du bon sens est proprement consternante, c'est que le progressisme, auquel se réfère le président de la République, c'est la croyance dans les lumières, dans la raison, dans la science, dans la capacité à objectiver des données et à partager un constat. On peut après se diviser sur les solutions.
Natacha Polony.
Alors, sur la manifestation en elle-même et les mots d'ordre, en effet, on peut s'inquiéter du slogan autour de la justice, même si on peut aussi en comprendre les soubassements. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la façon dont la France met en prison, le retard pris qui implique des détentions provisoires très longues, et le fait que, à côté de ça, les alternatives à la prison, le fait que les premiers délits ou les premières infractions à la règle, puis ensuite à la loi, ne soient pas suffisamment traitées, tout ça crée en fait un climat qui est un climat où ce qui devrait être traité le plus vite, c'est-à-dire le début de la bascule vers la délinquance, ne l'est pas. Et pour autant, en effet, on emprisonne plus. Cela dit, la France avait un nombre de places de prison inférieur à d'autres pays comparables en Europe. On est en train d'en construire, mais la question est de savoir justement si on n'est pas dans une course contre quelque chose qui s'amplifie systématiquement. Donc, premier point, ce débat sur les rapports entre police et justice mériterait que des politiques s'en saisissent véritablement. Et ce qui est hallucinant, c'est de voir des politiques venir flatter, en fait, les policiers parce qu'ils ont compris que la population était derrière sa police, ce qui est tout à fait justifié, mais venir les flatter au lieu, tout simplement, de prendre en main ce problème. C'est ne serait-ce que de faire se rencontrer les syndicats de policiers, les syndicats de magistrats, organiser, c'est le mot est tellement galvaudé, mais un Grenelle, mais de la police et de la justice.
Or, ou que le ministre de l'Intérieur discute avec le ministre de la Justice, tout simplement, le ministre de la Justice qui, au moment même, était à l'intérieur de l'Assemblée nationale.
Et qui, lui, est en train de mettre en place une loi qui est une loi dont on ne peut pas dire qu'elle soit laxiste. Pas du tout. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer, mais là, on est dans le slogan pur et l'instrumentalisation de ces policiers dont la colère est parfaitement légitime, mais qui recoupe des choses beaucoup plus vastes. Alors, deuxième point, sur juste un petit mot sur les enquêtes de victimation et sur la question de savoir s'il y a un ressenti. La phrase « je suis d'accord » de Darmanin est consternante dans la mesure où elle est d'une démagogie absolue. En revanche, il faut avoir conscience du fait qu'il y a actuellement en France une augmentation d'une violence qui est imperceptible et qu'à mon avis, certaines enquêtes de victimation n'arrivent pas à détecter parce que on parle de choses qui justement ne vont pas advenir, d'agressions qui n'adviendront pas parce que les gens les évitent. Mais cette façon dont ils les évitent, c'est-à-dire en détournant le regard, en ne s'insurgeant pas contre un comportement incivique contre lequel normalement ils auraient voulu s'insurger, construit chez eux un sentiment qui est un sentiment de colère, de frustration qu'il faut traiter. Donc c'est pour ça que je pense que la question de la mesure de la violence est extrêmement complexe. Pour autant, la façon dont Gérald Darmanin utilise ça est absolument lamentable. La façon dont la gauche se fracture l'est aussi. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un Jean-Luc Mélenchon qui se positionne en recours contre une supposée insurrection fasciste dont il me semble qu'elle n'est pas encore...
Il a qualifié la manifestation de factieuse, oui.
Oui, voilà. Or, non, cette manifestation n'est pas factieuse. En revanche, on peut critiquer les politiques qui y sont allées sans se poser la question de la position qui était la leur et sans s'insurger contre les slogans simplistes qu'ils pouvaient entendre.
Gilles.
Ouais, je crois qu'il faut effectivement s'interroger sur cette présence politique des politiques. Alors, qui n'a pas nécessairement et seulement pour objet de flatter les policiers. Celle de Gérald Darmanin, évidemment, était étrange. Hein, on l'a souligné, c'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur participait ou passait dans une manifestation. Celle de la gauche, ou en tout cas d'une partie importante de la gauche, puisqu'il y avait à la fois les candidats possibles du Parti communiste, Fabien Roussel, des écologistes Yannick Jadot, du Parti socialiste avec Anne Hidalgo, a déclenché des passions. On l'a entendu à l'instant même avec la déclaration dans le journal d'Audrey Pulvar. Ça a traversé et ça a même déchirer une fois de plus la gauche. Moi, ma conviction est que c'est un débat qui est honnêtement qui est un débat difficile, mais que la gauche ne peut pas considérer que la sécurité est un angle mort. C'est une priorité des Français, Natacha l'a évoqué. J'ajoute que depuis 10 ans, depuis 20 ans, la gauche a un bilan à faire valoir, à la fois dans ses politiques locales, dans ses politiques nationales. Elle a eu des grands ministres de Pierre Joxe, en passant par Jean-Pierre Chevènement jusqu'à Bernard Cazeneuve. Et donc, elle ne peut pas abandonner ce terrain-là. Et la manifestation avait en réalité une ambivalence. Elle était soutenue, lancée par un syndicat qui est très à droite, mais soutenue par d'autres syndicats comme la CFDT et la CGT. Il y avait des revendications dont on a parlé qui pouvaient être contestables ou des mots d'ordre, mais il y avait aussi un appel à la solidarité après ces meurtres-là. Et donc, moi, je pense que ceux qui ont été là ont eu raison d'y aller dès lors qu'ils y allaient pour faire valoir ce qu'était leur position, se saisir de ce moment-là pour dire ce qu'était leur position, y compris leurs exigences par rapport à la police.
Est-ce qu'on a raison de faire très rapidement le parallèle ou de rappeler le souvenir de ce qui se passait au moment du plus fort de la crise des Gilets jaunes, en l'occurrence lorsqu'on parlait de la police, il était davantage question des violences policières et qu'aujourd'hui, le regard des Français a complètement changé, voire s'est inversé sur les mêmes forces de l'ordre. Comparaison n'est pas raison ou est-ce que on peut laisser de côté ce souvenir-là, Gilles ?
Il y a les deux. Le regard des Français sur la police est un regard très majoritairement, on l'a évoqué à plusieurs fois ici, de confiance. Mmh. Alors ça c'était monté très haut après les attentats de 2015. C'était redescendu un peu au moment des Gilets jaunes. Et dans l'enquête que le CVPOF a publiée hier dans Le Monde, qui était une vague sur la confiance des Français, ça a remonté à des niveaux qui sont importants. De mémoire, c'est 73% des Français la semaine dernière qui exprimaient leur confiance dans la police.
C'est la raison pour laquelle je vous posais la question, Natacha, d'un mot ?
D'un mot, on a dit plusieurs fois ici, en tout cas pour ma part, je l'ai dit plusieurs fois, il y a eu une instrumentalisation de la police par le politique au moment des Gilets jaunes et qui a mis les policiers dans une situation intenable. Et en effet, il y a eu des violences policières, mais elles sont le résultat de cette absence de gestion politique du problème. Pour autant, les policiers sont une institution qui a la confiance de la majorité des Français, tout simplement parce qu'une majorité de Français a bien conscience qu'ils sont ceux qui préservent la sécurité, qui les protègent. La question de la protection des citoyens par l'État est absolument cruciale et nous sommes dans un moment de demande adressée à l'État qu'il joue son rôle de protection économique, sociale, mais aussi de protection physique. Et de ce point de vue-là, il est parfaitement normal qu'il y ait un soutien des policiers. Tout le problème est de savoir comment on fait en sorte que ces policiers ne soient pas ceux qui subissent justement les incuries politiques. Juste un point, oui. Par exemple sur la question des trafics, où l'on voit que c'est en train de gangréner totalement la France, c'est-à-dire d'amplifier la violence dans certains quartiers, et l'augmentation des trafics est sans doute extrêmement dommageable dans la mesure où on voit bien que ça implique une violence contre les policiers qui maintenant est sans limite. Je ne comprends pas pourquoi là non plus les politiques ne sont pas capables de proposer autre chose qu'un discours d'apparence qui consiste à dire on va augmenter le nombre de policiers alors qu'on sait très bien que budgétairement ça n'est pas la réponse ne sera pas suffisante. On va, ce sont des rodomontades, on va lutter, la drogue c'est de la merde, ça c'est le discours de Darmanin, sans jamais réfléchir de façon systémique.
Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Je pense que la question de la démographie et dans l'harmonie d'une société. Je ne crois pas du tout à ce que les Allemands ont fait, c'est-à-dire accepter d'un seul coup 1 million de personnes parce que le patronat allemand avait dit qu'il fallait 1 million de personnes pour des main-d'œuvre en plus qui ne trouvaient plus de main-d'œuvre. Ça, pour moi, si ça se produisait en France, je pense que ça ferait des dégâts considérables qui produiraient du déséquilibre, et le déséquilibre produit de la dénatalité.
C'était François Bayrou, le haut commissaire au plan, qui était auditionné ce 20 mai par la délégation à la prospective du Sénat, et il est revenu évidemment sur sa vision pour redresser une démographie française en baisse dans les prochaines années, puisque les Français ne font plus assez de bébés. Deux solutions, faire des bébés d'un côté ou faire appel à l'apport migratoire, avec la préférence que vous venez d'entendre dans la bouche de François Bayrou. Qu'en pensez, Natacha?
Alors, la position de François Bayrou dans son rapport est plus fine et plus vaste que cela. C'est-à-dire, premier point, il y a un constat qui est que la France vit une baisse démographique dont on peut craindre qu'elle soit d'ordre structurel plus que conjoncturel. Évidemment, le coronavirus l'a amplifié, mais pour autant, depuis plusieurs années, la baisse est plus que marquée.
Depuis 6 ou 7 ans.
Voilà. Or, c'est un sujet majeur dont visiblement tout le monde se détourne et se contrefond. La question est de savoir si cette baisse démographique est due à la suppression progressive de nombre d'avantages d'aide aux familles. Auquel cas, et sans doute qu'il y a une part de cela, notamment le quotient familial, par exemple, qui est une incitation aux classes moyennes supérieures à faire des enfants, même si, bon, le lien est très difficile à établir, mais de fait, ça se met à baisser à partir du moment où ces politiques familiales baissent. Or, la réussite du modèle français, c'est cette politique familiale plus la possibilité pour les femmes de travailler et faire des enfants, c'est-à-dire tout un système de crèches, de garde d'enfants, donc les aides à domicile, etc. Tout ça a été raboté au prétexte que ça bénéficiait aux riches, ce qui est sans doute une erreur de perspective majeure.
Ce qu'indiquait François Bayrou.
Voilà, mais le problème est que ça se conjugue sans doute avec quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'on fait des enfants quand on croit en l'avenir. Et jusqu'à présent, la France était un pays qui faisait des enfants. Le fait qu'il y ait aujourd'hui cette baisse de natalité démontre sans doute une souffrance sociale qu'il faudrait examiner plus largement. Quant à la réponse par l'immigration, François Bayrou le dit, et il a raison, si ça consiste à dire on remplace tout simplement, c'est-à-dire que on manque de bras, donc on fait venir des bras, c'est la réponse la plus faible qui soit, sans pour autant dire que Angela Merkel a eu forcément tort d'accueillir des migrants en 2015, le problème n'était pas exactement le même. Mais croire que les hommes sont des pions et qu'on va faire venir les forces vives de pays pauvres pour combler notre déficit est une folie et une absurdité. En revanche, réfléchir à l'apport d'une part d'immigration, est-ce qu'il faut une immigration choisie du point de vue des besoins économiques, mais de façon mesurée pour ne pas piller les ressources des pays en développement, là aussi ça nécessite un débat apaisé, un débat national.
Mais c'est un débat qui a cours, et notamment en régie, ici en studio, Natacha, avec vous Gilles qui allez y participer tout de suite. Faire des bébés ?
Les questions démographiques, comme les questions climatiques, sont les questions les plus structurantes, et je crois que c'est intéressant de lire ce rapport de François Bayrou, haut commissaire au plan. Il y a des choses qui sont intéressantes dedans, vous l'avez évoqué, notamment le fait que peut-être plus qu'ailleurs, la structure de la population, c'est-à-dire l'équilibre entre les différentes générations, est plus important compte tenu de ce qu'est notre modèle social. Il y a des choses qui sont politiquement significatives, qui ont été peu relevées dans ce rapport, notamment le fait que il contrebat l'idée que la subversion migratoire est là. Il montre qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Même que le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties, est faible. Il dit que c'est 87 000 personnes en 2020. Et que pour l'essentiel, l'accroissement de la population que l'on continue de connaître provient de la natalité et très marginalement de l'immigration. Mais pour le reste, vous disiez tout à l'heure, il y a des propositions. En fait, je trouve que ce rapport est extrêmement décevant de ce point de vue-là. Un rapport du Haut Commissariat au plan, traditionnellement, c'était après une immense concertation de la société civile et des experts et des propositions pour formuler au gouvernement qui les prenait ou qui ne les prenait pas. Là, je ne sais pas s'il y a eu de la concertation, mais il n'y a aucune proposition dans ce rapport. Et là où il y a, non pas une proposition, mais des suggestions, des orientations implicites, je trouve qu'elles sont discutables. Je rebondis sur ce que disait Natacha Polony pour m'en distinguer. François Bayrou dit il y a une baisse de l'indice de fécondité à partir de 2012, c'est-à-dire le nombre de femmes par enfant. Il y a en 2012 aussi une baisse des allocations familiales et du quotient familial pour les familles les plus modestes. Il y a une corrélation et même une causalité entre l'un et l'autre, c'est ce que reprenait Natacha. Il n'y a dans ce rapport pas le moindre début de commencement, de démonstration qu'il y a un lien entre les deux. Or, on peut...
C'est la question que j'allais vous poser.
Mais on peut tout à fait en douter, et même en douter fortement. C'est une toute petite partie des familles qui ont été touchées, et qui ont été touchées de manière extrêmement limitée. C'est, en gros, les familles qui touchent 8000 euros par mois, donc c'est une petite partie de la population, et qui perdaient un peu moins de 100 euros par mois au deuxième enfant. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne fait pas d'enfants ? Franchement, il y a d'autres causes qui me paraissent beaucoup plus fondamentales, des causes matérielles. Le coût du logement, c'est beaucoup plus important. Les conditions d'accueil de la petite enfance, c'est beaucoup plus important. Et ce par quoi a terminé à raison Natacha, c'est cette dimension psychologique, la capacité à se projeter dans l'avenir. Et je termine par là. Je crois que ce qu'il va falloir observer de près dans l'avenir, c'est est-ce que le discours des jeunes générations que l'on a tous entendu, qui ne veulent pas faire d'enfants en raison de l'état de la planète, ce que l'on appelle, j'ai découvert dans ce rapport, cet acronyme, les GINKS, Green Inclination No Kids, est-ce que ce discours va être demain une pratique ?
Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Gilles, vous vouliez revenir aujourd'hui sur la réforme de la fonction publique et Natacha également, vous étiez passionné par l'idée que le corps préfectoral puisse voir sa fin approcher et que cette réforme de la haute fonction publique qui vise notamment à introduire plus de mobilité au sein des grands corps de l'État puisse permettre une réorganisation des structures, cette colonne vertébrale de l'État français. Natacha ?
Alors, je pense que c'est un sujet justement complexe où il faut se garder de positions extrêmement tranchées et qu'il faut regarder très finement les choses parce que cette suppression, cette fusion du corps préfectoral, peut avoir des effets pervers, mais l'instrumentalisation politique qui en a été faite nous raconte aussi beaucoup. Puisqu'en effet, cette décision intervient dans le cadre de la réforme de l'ENA promise par Emmanuel Macron au nom de l'idée que la haute fonction publique est trop uniforme et qu'elle induirait une vision du monde totalement fermée, totalement orientée et empêcherait donc la véritable action politique. Ce n'est pas faux. Pour autant, est-ce que la réforme d'Emmanuel Macron va permettre le moindre changement, notamment le fait que cette haute fonction publique pourrait être plus diversifiée ? C'est le premier point. Mais surtout, parmi les décisions, donc, autant certains corps sont maintenus, hein, le Conseil d'État par exemple, autant le corps préfectoral, lui, donc, serait dilué, dissous. Et le risque, c'est d'abord le fait de perdre l'expertise que peuvent avoir les préfets, leur capacité à gérer. Or, la crise du coronavirus a montré à quel point il était absolument nécessaire d'avoir sur le territoire des gens qui connaissent l'ensemble des structures de l'État. Mais surtout, un autre risque qui est mis en avant, c'est celui des nominations politiques. Or, ces arguments-là, qui sont ceux des préfets, ont été récupérés par Marine Le Pen, qui leur a adressé une lettre pour leur dire « je suis entièrement de votre côté », etc. Et ce qu'on est en train d'observer, c'est que ceux qui sont, disons, des piliers de l'État et de sa perpétuation dans sa capacité à agir, sont en colère, et que, subrepticement, Marine Le Pen est en train de se positionner comme celle qui préserverait l'État. Elle, qui était perçue jusqu'à présent comme un danger, justement, pour l'État. Il y a là quelque chose dont il faut se méfier profondément, au-delà des débats qu'on peut avoir sur les risques, notamment d'augmentation du pantouflage entre public et privé, de la perte de l'idée même de service de l'État, tout cela qui sont des sujets de fond.
Gilles Finkelstein.
Je vais essayer d'être concis.
Avant d'accueillir notre invité.
Puisque Jean-François Cannes est là, et malgré tout d'essayer d'être clair sur une question qui est une question technique. J'ai senti une pointe d'ironie chez vous, Ali, en disant qu'on se passionnait pour cette question.
Ce n'est pas une pointe.
Alors, ça peut paraître un sujet secondaire ou limité. Hein, ça concerne en fait, pour essayer d'expliquer, le recrutement, la formation et la gestion de la carrière des 10 000 principaux cadres supérieurs de la fonction publique. Je pense que c'est en réalité un sujet stratégique pour la réforme de l'État, stratégique aussi pour Emmanuel Macron, qui a là un moyen de réactiver une identité réformatrice qui a été émoussée. Globalement, cette réforme me paraît aller, elle a été critiquée, elle me paraît aller dans la bonne direction. Je crois qu'on peut souscrire aux objectifs, aux orientations, ce que vous avez dit, c'est-à-dire plus de mobilité, mais aussi plus de diversité dans le recrutement, plus de proximité, c'est-à-dire commencer sa carrière en étant sur le terrain, plus d'équité avec une harmonisation des rémunérations. Il y a évidemment des prudences à avoir, il y a beaucoup de questions qui sont posées, je ne les énumère pas, qui sont renforcées par les contraintes de calendrier. Ça serait plutôt une réforme de début de quinquennat. On est à la fin du quinquennat et donc il y a un enchevêtrement des annonces et de la concertation. Et il y a un doute évidemment sur la continuité, la mise en œuvre de cette réforme. Sur la suppression du corps préfectoral, et je termine par là. Les préfets ne disparaissent pas. Les préfets seront toujours là, les sous-préfets, les préfets de département, les préfets de région, avec les mêmes fonctions et les mêmes suggestions. Ce qui disparaît, c'est le corps des préfets, c'est-à-dire la gestion de leur carrière. Je pense que la question de leur impartialité est un faux problème, celui qui a été soulevé par Marine Le Pen, parce que, par définition, ce sont des emplois qui sont à discrétion du gouvernement. Il peut les changer du jour au lendemain.
Donc, depuis Napoléon,
de ce point de vue-là, ça ne change rien. En revanche, ce à quoi il faut veiller, ce n'est pas la question de l'impartialité, c'est la question de l'efficacité, c'est-à-dire de leur compétence. C'est un vrai métier que d'être préfet. Et il y a une forme d'élément surprenant qu'on fragilise symboliquement les préfets, le corps préfectoral, au moment où on essaye de revaloriser pratiquement leur rôle sur le terrain.